Pendant toute cette semaine, à 13h30 et 20h30, Radio Escapade vous propose l'écoute des 5 épisodes de la série documentaire « La rivière en soi », réalisée par Florent Dupuis en collaboration avec Rémi Pozzo et Marianne Nicolet. « La rivière en soi » est un docu-fiction conçu à partir d'un collectage de témoignages d'habitants et d'habitantes, artistes ou passionnés des rivières, qui livrent leurs récits et points de vue autour de la présence et de la mémoire de l'eau liée aux rivières qui traversent le Grand Pic Saint-Loup. Ce podcast a été produit et diffusé dans le cadre de la Route de l'eau, un événement itinérant, culturel, écologique, scientifique et participatif autour de la présence et la mémoire de l'eau en Pic Saint-Loup. La Route de l'eau a été organisée par Lagrange Bouillon Cube du 26 septembre au 4 octobre de cette année. Épisode 3. Les murmures sans témoins.
On parle de biodiversité, on considère qu'il y a plusieurs hotspots de biodiversité, donc plusieurs points chauds de biodiversité à la surface du globe. Donc il y en a un certain nombre, mais la Méditerranée fait partie de ces hotspots de biodiversité. Donc c'est vraiment, en effet, une zone où il est reconnu, établi, qu'il y a une diversité d'espèces très, très remarquable et qu'on ne retrouve pas partout sur la planète.
Les gens ne s'imaginent pas tout ce qu'il y a en biodiversité. Alors tristement, on perd beaucoup de biodiversité à la surface. Tristement, derrière ça, on découvre une biodiversité souterraine qui est juste incroyable, qui est extraordinaire. On parlait de science-fiction, ça y est, on est dedans.
Épisode 3. Les murmures sans témoins. Sans témoins.
On parle d'exploration, on découvre des pseudo-scorpions qu'on pourrait remonter. Alors pourquoi pseudo-scorpions ? Parce qu'ils n'ont pas l'aiguille pour piquer comme le scorpion. On va retrouver des diplures, des colamboles, une vraie variété, des mille-pattes. Donc ces petits myriapodes hein, qui font quand même 4 cm en moyenne. Ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'ils ne se ressemblent pas. Ils ont des systèmes de points. Il y en a qui vont les avoir à gauche, d'autres à droite, et puis d'autres sur la colonne et d'autres pas du tout. Donc chaque espèce, en fait, même si on se dit « Ah ben tiens, j'ai une même espèce de colamboles. » Bon, ok, super. Sauf que tu verras que d'une galerie à une autre, cette espèce de colamboles est point en tout similaire, sauf sur leur appendice sexuel. Ils ne peuvent pas se reproduire entre eux. Ce qui est brillant, parce que ça évite les problèmes de consanguinité, finalement. C'est-à-dire que tu as une colonie qui va s'établir. Oui, pourquoi je te parle de problème de consanguinité ? Alors, c'est peut-être pas le terme pour les animaux. Parce que en fait, si tu mets une colonie toujours au même endroit, au bout d'un moment, elle va. Enfin, on l'a vu pour les rois de France. Voilà, ça devient un peu problématique. Mais là, du coup, le fait qu'ils aillent établir une autre colonie, peut-être d'eux-mêmes ou par perte ou autre, ben finalement, il y a une vraie diversité qui se crée.
La phréatique, ça vient de phréos, hein, du grec. C'est pour ça qu'on a la nappe phréatique d'un côté, alors que l'aquifère, ça vient du latin, avec aqua, l'eau, et ferré, qui est porter l'eau. Voilà, donc c'est juste voilà, des histoires étymologiques par rapport à la notion. Je dirais naturellement, la nappe phréatique, c'est celle qui, où l'eau n'est pas tellement loin de la surface. Hein, dans l'imaginaire, c'est celle qui va être facile à capter.
Observable presque.
Pour les usages. Et observable via les puits, hein, phréos, justement, qui étaient mis en place généralement de faible profondeur, les puits qu'on peut avoir dans les villages depuis le Moyen-Âge.
Un aquifère, c'est tout ce qui va couler vers une source. Alors, l'aquifère des Sans-Fonds dans les gorges de l'Hérault, c'est pas un aquifère très grand en soi, hein, puisque le bassin versant, c'est le cause de la selle, donc ça reste assez limité. Ceci dit, c'est une des réserves d'eau principales du département, avec des sources qui coulent en permanence. Donc c'est une réserve d'eau qui est quand même significative. Et on a la chance qu'il y ait eu des études assez poussées dans les années 60-70, des études bio, donc avec des gens qui s'intéressaient aux crustacés, et qu'on fait ça. Et puis après, dans les années 2005, il y a le département qui a voulu en faire une ressource en eau, en eau potable, enfin en tout cas étudier la possibilité de pomper énormément d'eau dans l'aquifère des Sans-Fonds. Et c'est là que moi j'ai travaillé de 2005 à 2006, sur un inventaire de la faune stégobie, on appelle, donc la faune souterraine aquatique, avec des spécialistes des crustacés. Moi, je suis pas spécialiste des crustacés. Moi, je faisais les mollusques. Et puis, c'est finalement assez récemment que, en comparant ces travaux de 1967 et puis notre rapport qui était resté un peu cryptique, un chercheur du muséum, un ami, m'a dit oh, « il faudrait que tu fasses quand même une synthèse sur les sans-fonds pour voir un peu ce qu'il y a au total en biodiversité souterraine sur cet aquifère ». Et puis c'est en décrivant ce papier que je me suis rendu compte qu'effectivement, les sans-fonds étaient le cinquième site le plus riche du monde en diversité souterraine. On a, alors de mémoire, 43 espèces souterraines aquatiques, donc strictement souterraines, dans cet aquifère, et ça en fait un des sites les plus riches, parce que les aquifères souterrains, c'est évidemment très très pauvre. Il y a très peu de matière organique. La seule matière organique, elle vient de ce qui peut percoler du dessus quand il pleut. Donc il n'y a pas de producteur primaire, il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de végétaux. Il faut quand même imaginer un écosystème sans la base. On parle d'écosystème tronqué. Donc ce sont des écosystèmes globalement très pauvres. Et à avoir 43 espèces, voilà, on est parmi les plus riches. Alors au-dessus, il y a des cavités des Balkans avec une soixantaine d'espèces. Et puis il y a des trucs aux États-Unis aussi. Hein, j'ai plus vraiment le top 5 en tête. Mais dans le top 10, on en a une autre qui est le lèze. Donc en fait, on a un trio lèze, sauve, donc Vidourle, et donc source du lèze, aquifère du lèze, aquifère de la source de sauve dans le bassin versant des Vidourles et les sans-fonds dans l'Hérault, qui tous, trois systèmes qui se touchent et qui font partie des plus riches au niveau mondial. Donc là, si on poule tout ça, on a vraiment sur quelques kilomètres beaucoup, beaucoup d'espèces.
Et ici, en Europe, hein, généralement, on a des cavités qui sont, on va dire, fraîches, et pour pas froid. Après, enfin, la température dans les cavités, elle descend au fur et à mesure qu'on s'élève, comme en extérieur. Hein, on prend, y a un degré en moins tous les 200 mètres, c'est le gradient altitudinal classique, et on le retrouve aussi dans les cavités. C'est-à-dire qu'ici, les cavités, l'air dans les cavités est à 13-14. Si tu vas dans le Vercors, qui est un peu plus haut, elles sont plus froides, quoi. Ici, on va en Haute-Savoie, c'est encore plus froid, quoi. Donc ici, en Europe, on a des cavités qui sont entre guillemets fraîches, qui sont pas forcément propices au développement important, on va dire, d'un certain type de faune. Par contre, alors, il y a quand même de la faune. Il y a des petits insectes, il y a de la faune dans l'eau, il y a des animaux qui passent venir, comme les chauves-souris, les ours, les putois ou les loirs qui viennent hiberner, passer un cycle de vie, etc. Il y en a quand même, hein, mais c'est tout petit. Par contre, je sais qu'en Nouvelle-Zélande, il y a des cavités où il y a des papillons luminescents qui éclairent carrément le plafond des cavernes. Au Mexique, on a d'autres formes de vie aussi. Dans les endroits tropicaux, il y a beaucoup plus de vie puisqu'il fait plus chaud. Et en plus, bon, il y a beaucoup plus d'eau qui transite, il y a beaucoup plus de sol et de végétation. Donc, on retrouve sous terre plus de nutriments. Donc, il y a plus de vie sous terre, quoi. Ben Vincent a mis en évidence que c'est ce qu'on appelle la malacologie, c'est la science qui étudie les mollusques. Effectivement, il y a plusieurs cavités, alors ça, il te le dira mieux que moi, mais notamment dans la source des Fontaniques et dans la vallée de l'Hérault, c'est une cavité qu'on continue à explorer, qu'on a repris récemment. On a trouvé une espèce, enfin, il y a 20 ans, on a ramené du sable à Vincent, avec d'autres collègues. Hein. Moi, j'avais ramené du sable de sous l'eau et des copains du sable qui étaient proches de la surface. Et dans les deux prélèvements, on a retrouvé une espèce qui était inconnue.
On continue à trouver des trucs. Peut-être un truc que j'ai pas dit sur la faune stégobie, c'est que vivant tout le temps dans le noir, ils ont fait l'économie de ce qui nous protège du soleil, c'est-à-dire la mélanine. Donc ils sont translucides. Les escargots, les crevettes, c'est translucide. On voit ce qu'ils mangent, on voit leur intestin à travers. Ils sont complètement translucides, ils n'ont pas besoin de mélanine. Mais dès qu'ils sortent, avec les ultraviolets, leur ADN se dégrade hyper vite et donc ils meurent en quelques minutes. Les escargots, moi, que j'ai vu vivants et que j'ai essayé de photographier vivants, c'est très rapide. On a quelques minutes au bout desquelles ils rentrent dans leur coquille. En fait, ils n'en sortiront plus jamais. Les ultraviolets détruisent leur... C'est ça qui fait qu'ils ne sortent pas de leur aquifère. C'est ça qui fait qu'ils ne sortent pas de leur grotte. Arrivés à la source, s'ils prennent la lumière... ils meurent. Donc, ils ne peuvent pas passer d'une source à l'autre, même à l'intérieur d'une même rivière, c'est-à-dire d'un même hydrosystème où tout est connecté. Ils ne peuvent pas passer de la rive gauche à la rive droite. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même un milieu qui leur permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle le sous-écoulement. Donc, dans une rivière, au fond du lit, il y a des graviers, et entre ces graviers, il y a de l'eau qui percole, donc c'est oxygéné. Il y a une source de nourriture aussi qui peut être là, et c'est dans le noir. Donc on a plein d'espèces qui se sont adaptées à ce sous-écoulement et qu'on récupère, qu'on peut aller chasser dans le sous-écoulement, hein, à l'aide de pompes spéciales qui permettent d'absorber un peu tout ce qui traîne entre les cailloux. Et ces espèces-là, du coup, colonisent l'ensemble d'un bassin versant. Donc on peut imaginer être né dans les sans-fonds et puis remonter le Lamalou ou alors descendre jusqu'à Saint-Guilhem à la faveur du sous-écoulement. Donc il y a certaines espèces qui font ça. Il y a même des espèces qui ne vivent que dans le sous-écoulement et qu'on ne va pas retrouver en cavité. Mais il y en a d'autres qu'on va retrouver que en cavité, jamais dans le sous-écoulement. On a un genre, le genre Paladilia, qui se trouve en rive droite de l'Hérault, en rive gauche de l'Hérault, mais pas en rive droite. Pas du tout. En rive gauche, il y en a plein. Enfin, c'est une des bêtes assez abondantes, le genre Paladilia. Mais en rive droite, il n'y en a pas du tout. Elle n'a jamais traversé l'Hérault. En quelques millions d'années d'existence, elle n'a jamais traversé l'Hérault. Notre probabilité de détection des escargots souterrains, parce que je parle de ce que je connais vivant, elle est très faible. Même sur des bêtes qui sont très abondantes, il est rare d'en trouver une vivante. Mon protocole, en général, c'est de prendre 5 litres de sable tamisé. Et là-dedans, en général, j'ai plusieurs coquilles de chaque espèce. Par contre, j'ai très rarement un vivant. Donc on sait qu'elles sont dures à trouver vivantes, et c'est un peu le paradoxe des escargots, c'est qu'il y a beaucoup plus de morts que de vivants, puisque la durée de vie d'une coquille est bien supérieure à la durée de vie d'un animal. Donc on trouve beaucoup de coquilles et très peu de vivants, bon, c'est comme ça.
Ah non, c'est totalement inédit, c'est du jamais vu. Cet enfant qu'on a appelé l'enfant fleuve, pour préserver son anonymat, eh ben on observe un pourcentage de plus de 86% d'eau dans son organisme. Alors, oui, bien sûr, on a des explications scientifiques. On a pu observer que ses organes sont inférieurs en volume à ce qu'ils devraient être. Ce qui, d'ailleurs, ne les empêche pas de fonctionner parfaitement. Mais ça laisse donc plus de place à l'eau. Mais est-ce que ces organes sont sous-développés à cause de la présence anormalement forte de l'eau, ou bien étaient-ils déjà atrophiés à la naissance? J'ai envie de dire, qui de l'œuf et la poule? Alors bon, évidemment, le seul désagrément, c'est ces régurgitations incontrôlées d'eau qui ne sont pas faciles à gérer au quotidien. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est sa vie privée. Bref, c'est du jamais vu. Alors, chacun, chacune, y va de sa petite allégorie. Est-ce que c'est parce que sa mère a accouché dans une baignoire? Est-ce que c'est l'enfant qui s'est muté avec son milieu naturel parce qu'elle vit près d'une rivière? Ça, j'en sais rien. Dans tous les cas, ce qui est fascinant, c'est que plus d'eau signifie un cerveau mieux irrigué. Et donc, une intelligence hors du commun.
Ce qui est fou, c'est que l'être humain, qui est l'animal le plus faible du règne animal, hein, on a une peau super fine, on ne supporte pas les coups de soleil, on a tout le temps froid, on est obligé de manger tout le temps, on n'est pas capable de s'adapter ou de se développer comme ces animaux. Tu vois, le protée peut manger qu'une fois par an. Ralentir son organisme à ce point-là, la société occidentale telle qu'elle vit aujourd'hui, elle en est incapable. Je vais essayer de te montrer notre collègue Nifargus, on l'appelle Nini. Alors, je ne sais pas si on va le voir bouger. C'est une petite crevette qu'on a récoltée dans un des endroits. En fait, quand il a faim, il ressort. Et sinon, il va s'enterrer dans le sol. Et c'est une toute petite, c'est une petite crevette. Tu l'as en photo sur notre site internet. Ça a devenu un peu notre mascotte. Et en fait, c'est une des espèces. Alors, Nifargus veri, parce qu'il vient de la grotte de Clamouse, donc il est propre à Clamouse. Si tu regardes bien ces astyanax, ils n'ont pas d'œil. Alors, ils sont anophthalmes, parce qu'à force d'évoluer complètement dans le noir, ben, ils ont perdu le globe oculaire. Puis l'autre particularité de ces astyanax, c'est qu'ils sont transparents. Et oui, comme il n'y a pas de soleil, ils ne peuvent pas se pigmenter. De mémoire, mais j'aurais peur de te dire une bêtise, je crois qu'il a entre 300 et 500 000 ans d'évolution souterraine. C'était un poisson type la famille des saumons, qui s'est retrouvé suite à des échangements de niveau entre les océans et les glaciations, coincé dans les grottes, au Saumâtre, et il s'est adapté petit à petit au milieu souterrain. C'est le cas de beaucoup, enfin de ce que j'en sais aujourd'hui, de beaucoup d'animaux cavernicoles. En fait, c'est des animaux qui se sont retrouvés plus ou moins piégés. Et une fois qu'ils sont piégés, ils sont adaptés au milieu où ils étaient. Ce que l'être humain n'est pas capable de faire. Piège un être humain sous terre. Hein. et là, t'as un animal extraordinaire. le protée. Alors, tu vois, lui, et tu vas avoir ses collègues qui sont derrière. Donc, le protée, il est vraiment extraordinaire. Hein, il vient de Slovénie. Trois systèmes de respiration. Branchies, poumons, et il peut respirer par la peau. En fait, c'est le stade de néotémie. Ça veut dire qu'il reste au stade larvaire toute sa vie. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'il reste au stade larvaire toute sa vie qu'il ne peut pas se reproduire. Sinon, il n'y en aurait plus, t'imagines. Ce qu'il a de particulier, en plus de ça, c'est qu'il cicatrise très très vite. 5 millions d'années d'évolution souterraine, le protée, à peu près. On suppose que c'est de la famille des salamandres.
Salamandres, si tu
veux. Voilà, c'est ça. Amphibien batracien, c'est les deux termes.
Eh bien, les troglobies, c'est les terrestres. C'est les terrestres souterrains, et stygobies, c'est les aquatiques souterrains. Donc le protée, par exemple, il est endémique des Balkans, donc il est vraiment un hotspot de biodiversité mondiale, de biodiversité souterraine mondiale. Mais on a trouvé dans les Balkans aussi une moule souterraine qu'on connaissait sous la forme de fossiles, qu'on pensait complètement disparue. Et tout d'un coup, paf, on a retrouvé d'abord sur une cavité, puis après sur quelques-unes, cette moule souterraine, cette moule stygobie. C'est le seul exemple de bivalve stygobie, strictement stygobie. Les congeria. Donc on peut très bien, et puis moi c'est un peu mon rêve, mon grand fantasme, ce serait de trouver un poulpe stygobie. Ça, ce serait vraiment génial.
Dans les rivières, là.
Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de poulpe d'ulsacquicole. Ils sont tous marins, donc il y a très peu de chance, mais on peut rêver.
Cindy Bernard, écologue. Mardi 3 avril 2025. Chers confrères et chères consœurs, amis scientifiques du pays d'Hérault, je viens par ce message vous partager une découverte ô combien tant surprenante que fascinante. Une découverte qui nécessite l'union de nos forces afin de pouvoir l'enrichir davantage et démontrer à nos chefs d'État l'importance de nos fleuves et rivières. Certains d'entre vous le savent, comme écologue engagé, j'ai débuté un recensement des espèces animales, végétales et minérales que la Buège abreuve et du niveau de sa crue selon les températures et les pluies. J'ai disposé pour ceci trois caméras le long de l'eau entre Saint-Jean-de-Buège et Péguerolles. Mon rapport dépasse mes espérances. Le 21 mars dernier, je visionne l'enregistrement des nuits précédentes. L'image laisse alors entrevoir une masse étrange faisant bouger les branches de la rive. Une masse plus grosse qu'un ragondin. Je me suis donc penchée sur ce mystère. Le lendemain, je retourne chercher une des deux caméras. L'une d'elles avait disparu et, étrangement, l'écorce de l'arbre où elle était accrochée était mouillée par endroits. Pas comme une éclaboussure, ni non plus comme une pluie ou une rosée généreuse. Le sol laissait des empreintes vaseuses que je vis là pour la première fois, ressemblant à un pied d'humain, de taille plutôt petite, comme celle d'un enfant. Le bout des orteils laissèrent comme une auréole de ventouse et l'espace entre les doigts de pied indiquèrent comme une palme. Je décida alors de poser ma troisième caméra en amont de ce spot. Je revins 3 jours plus tard. Oui, la caméra était là. Et oh Dieu, voici. Les images laissent entrevoir une créature non identifiée à ce jour. Lors de la troisième nuit, la forme ressurgit à nouveau de l'eau et se faufila le long de la berge. Nous aurions dit là une fillette quant à sa corpulence. Mais la lumière argentée de cette pleine lune laissa refléter une texture de peau comme d'un bleu irisé. Ce bleu alla et vena entre les arbres avant de replonger tout entière dans l'eau. Elle n'en ressortit que 2 heures plus tard, au même endroit, tout près de l'entrée de la source de la Buège. Sur sa tête, des fils d'algues décoraient son visage. Son visage sans nez. J'agrandis l'image. Oui, sans nez. Nous obtenons furtivement le portrait de la créature. Pourrais-je ici parler d'individu ? Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est son existence. Chers confrères et chères consœurs, je demande ici votre soutien pour mener à bien davantage de recherches. Cindy Bernard.
Alors, voilà.
Donc là, tu me montres ton dernier tableau de peinture.
Voilà,
ça représente une rivière, c'est laquelle ?
Alors, c'est la Buège. C'est la Buège, justement. Et j'aime beaucoup la Buège parce que, justement, il y a une lumière qui est absolument extraordinaire.
Denis, peintre et habitant de la vallée de la Buège.
que ce soit le matin ou le soir, on peut avoir des effets de lumière qui sont vraiment sublimes. Et donc, bah, j'ai voulu l'exprimer à partir de tableaux. Donc, voilà. Le fait d'avoir travaillé à une certaine époque de ma vie sur une base de loisirs en tant que photographe, j'adorais au travers de la photographie justement ce mouvement d'eau, cette lumière qui était changeante du matin au soir justement, et on pouvait avoir des teintes qui pouvaient varier au long de la journée et même à certaines périodes où l'automne était complètement différente que l'été, même au printemps, voilà, on avait des lumières très différentes et j'ai toujours été en admiration devant tout ça, quoi, en fait. Voilà. Le but de peindre, c'est surtout d'essayer de transmettre une émotion, déjà. Et moi, en fait, je termine un tableau à partir du moment où je sens que l'émotion est là, où je sens que ça peut toucher les personnes qui vont le regarder et qui diront « Ah oui, tiens, c'est sympa ». Et puis surtout, au travers du tableau, c'est à chaque endroit que je vais peindre, je laisserai quand même toujours une partie de mystère, quoi, en fait.
Elle est moins chlorée et puis elle est moins calcaire, je crois.
L'eau du Griffou.
Ah oui, moi je viens chercher pour faire mon café.
C'est pour ça que c'est assez mystérieux.
Elle a pas le même goût. Elle a pas le même goût si tu bois au robinet ou si tu bois de l'eau du Griffon. Ça, c'est sûr. Et autrefois, c'était le frigo du village.
Ah oui.
Tout le monde y mettait ses bouteilles
ça,
au frais.
Et la fousse,
voilà. Et l'eau était fraîche, très fraîche. Elle est fraîche, l'eau du Griffon. Ça, je me rappelle. Une fois avec Catherine, on s'était trompé de bouteille. Moi, j'avais pris la bouteille d'Henri et Catherine avait pris la bouteille de mon père.
C'était du vin.
C'était du vin, oui. C'était le même.
Buvez du vin, l'eau est pour lui.
C'était pas des vins qui tournaient la tête comme aujourd'hui.
Mais c'est vrai que l'eau du Griffon, nous, on allait la chercher juste à midi parce qu'on n'avait pas de frigidaire pour rafraîchir l'eau, hein, tout ça. Tu sais, moi, ça, je l'ai connu, hein, je veux dire, c'est pas si vieux. Hein.
Ah, mais il y a beaucoup, là, pour les questions de goût, il y a beaucoup de gens qui vont encore chercher l'eau à la fontaine, hein.
Au griffe, oui. Moi, j'y viens aussi, ouais, chercher, j'y viens. Moi, j'y viens régulièrement aussi.
Et vous n'avez jamais été malade?
Penses-tu? Et on buvait de l'eau de la rivière. Alors,
ça fait plus de 60 ans qu'on en boit.
Ouais, plus de 60 ans.
Ça profite.
Moi, il va y avoir 75 bientôt, au mois de juillet. Alors, tu vois.
Après, je suis galère.
Non, mais moi, je m'en fous qu'on dise mon âge, tu sais. Alors, ça ne me dérange pas du tout.
Dans la nature, pour prélever, pour attraper un poisson, il faut quand même qu'il y en ait beaucoup. C'est pas parce que... Ah, là, il y a quelque chose.
Guillain, pêcheur et habitant du Causse de la Selle.
Les poissons, en général, se nourrissent forcément, enfin, ont de longues périodes de jeûne. Et une fois qu'ils ont mangé, ils peuvent jeûner 4 ou 5 jours. Donc, il faut tomber aussi à ce moment-là, au moment où le poisson mange. Donc, sinon, on n'attrape rien. Mais... Et lorsqu'on attrape quelques poissons, c'est surtout peut-être parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Donc on a la pêche, on n'attrape jamais tout le poisson. Ça, c'est pas possible. Donc la pression de pêche est liée par le nombre de pêcheurs, ça oui, mais pas par le fait qu'on peut attraper tous les poissons, puisque les poissons ne mangent pas tout le temps et pas toujours, et pas surtout pas en même temps. Donc il y a des poissons qui jeûnent, vous pouvez pêcher tant que vous voulez, vous ne les attraperez jamais. Et heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui est bien. Et là, je pense que l'eau s'est réchauffée très, très vite. Alors, c'était un endroit qui était assez bon au printemps, fin du printemps, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'eau cet hiver. Et là, l'eau, en se réchauffant très, très vite, perturbe quand même le poisson et il s'alimente beaucoup moins. L'eau trop froide, le poisson ne s'alimente pas, c'est très pointu. L'eau trop chaude, le poisson ne s'alimente pas non plus.
Là, on est à Aquascope Biologie, l'antenne sud, voilà, au nord de Montpellier, à Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Arnaud Corbarieux, hydrobiologiste à Aquascope.
On va visiter vite fait les locaux, les quelques collègues qui sont là. Ouais. Donc tout d'abord Jennifer.
Bonjour Jennifer.
Toute la partie admin, ouais. Rôle très important. Voilà, là j'ai vu qu'il y avait Léa.
Bonjour.
Bonjour Léa. Donc Léa, elle est spécialisée des diatomées.
Qu'est-ce que c'est ?
Grosso modo, c'est... Alors, je fais le gros raccourci, mais ça parle, c'est ce qui fait glisser les cailloux quand tu marches dans la rivière.
Ouais. Ok.
Ce qu'on appelle... Voilà. Il y a un biofilm, donc la petite couche qui est au-dessus du galet, quoi, et qui est composée majoritairement de diatomées. Donc c'est ça que j'analyse.
C'est des organismes qui ont un cycle de vie assez court. Du coup, ils réagissent très vite au changement de milieu. Et Camille, elle est plus spécialisée. Elle a une double casquette maintenant. Les macro-invertébrés. Donc ça, c'est les insectes et les larves d'insectes aquatiques. Les diatomées, tu as besoin d'un microscope. Les invertébrés, tu as juste besoin d'une loupe binoculaire pour les voir. Et depuis un an, Camille fait aussi des macrophytes. Donc là, c'est les plantes aquatiques qui, pareil, permettent d'avoir une indication sur la qualité du milieu ou la trophie. Enfin, on pourra rentrer un peu plus dans le détail. Je poursuis, je vais faire un peu les tours des bureaux, parce que tu verras un peu Le gros principe de notre activité, c'est de... On est hydrobiologiste, en gros. Et l'idée, c'est d'analyser la qualité des cours d'eau, la qualité de l'eau, à travers le vivant. Et donc, comme je t'ai dit, chaque compartiment biologique a des propriétés d'habitat, d'exigences différentes. Et donc, en fonction de ce qu'on veut étudier, analyser, on étudie tel ou tel compartiment. Donc, les diatomées, les insectes, le phytoplancton, le zooplancton, les poissons, les plantes. Et après, associé à ça, on va regarder l'habitat physique. Donc, l'habitat physique du milieu et éventuellement la physico-chimie, le pH, la conductivité, température, tout ce qui n'est pas biologique. Quoi. À part les poissons, la plupart des autres indicateurs biologiques, on va sur le terrain, on fait un prélèvement qu'on conserve. Et donc, on a toute la partie labo avec plein de postes parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'échantillons à traiter sur différents marchés.
Moi, je m'occupe plus particulièrement du site Natura 2000 de l'Aize, donc sur le fleuve l'Aize. Donc on a la chance d'avoir un site Natura 2000 parce qu'on a des enjeux de biodiversité importants et on a notamment la présence d'un poisson, on y reviendra, qui s'appelle le chabot du l'Aize. Alors pas que, hein, dans le site Natura 2000, il y a plein d'enjeux de biodiversité identifiés dans les directives, mais c'est quand même le chabot du l'Aize, notre espèce un peu phare et un peu totem, puisque c'est une espèce endémique. Donc l'endémisme, en fait, c'est des espèces qui ont des aires de répartition relativement localisées et restreintes. Et là, pour le coup, le chabot du l'Aize, comme son nom l'indique, il est endémique du cours d'eau l'Aize et de ses affluents, donc en tous les cas de quelques-uns de ses affluents.
Le chabot, donc, c'est un poisson qui a un cycle de vie d'en gros 3 ans, 2-3 ans. Donc c'est un cycle de vie assez court. Sa particularité, c'est qu'il est... Il est dépourvu de vessie natatoire. Les poissons, ce qui leur permet de nager un peu entre deux eaux, c'est qu'ils ont une poche d'air qu'ils peuvent gonfler plus ou moins. Et ça leur permet de se réguler dans la colonne d'eau. Le chabot, il n'en a pas. C'est un avantage écologique qu'il a eu dans son évolution depuis des siècles, hein, on va dire. L'avantage, c'est que du coup, il est plus dense que l'eau. Comme il n'a pas cette poche d'eau, en fait, il coule. Et donc, il est du coup inféodé à ces milieux courants. Il va mieux tenir dans les blocs rocheux et là où c'est très courant. Parce qu'il va être un peu plus ancré au fond. Quoi. Il a une densité qui lui permet ça. L'inconvénient du chabot, de cet avantage écologique-là, c'est que c'est un piètre nageur. Quoi. Donc, il ne va pas coloniser. Ce n'est pas un grand migrateur. Ce n'est pas un grand aventurier qui va pouvoir... Voilà, il ne va pas pouvoir coloniser les milieux. Ce qui fait que si son habitat physique change à une échelle de temps assez rapide, il va pouvoir fuir, mais sur quelques dizaines de mètres, etc., se réfugier dans les zones de refuge. Mais il ne va pas du tout pouvoir, comme d'autres espèces, redescendre dans d'autres bassins versants, dans d'autres milieux plus loin, et recoloniser quand les conditions vont devenir plus favorables.
Nous, il s'appelle le chabot de l'Hérault, mais du coup, il n'est pas dans l'Hérault. Il est que sur les petits affluents. Et on considère que c'est le même en fait sur la Buège et sur la Vèze. C'est le chabot de l'Hérault à cet endroit-là. Mais c'est un cousin en fait génétiquement du chabot du l'Aize qui lui est présent que sur le l'Aize. Voilà, mais on travaille ensemble hein, avec le PTB du Lez. Notamment, il y a un projet là, sur lequel on travaille en ce moment, de plan national d'action pour les chabots méditerranéens. Donc en fait, c'est un dispositif des services, de l'État français, en fait, de préservation de certaines espèces qui sont particulièrement menacées. Donc il y a eu un plan national d'action sur les chauves-souris, il est toujours en cours. Il y a eu un plan national d'action à une époque sur la loutre, qui n'a plus lieu d'être, enfin qui n'existe plus aujourd'hui, ce PNA, puisque la loutre s'est pas mal développée sur le territoire. Donc il n'y a plus lieu d'avoir ce dispositif un peu exceptionnel de l'État. Mais voilà, pour ce qui concerne le chabot de l'Hérault et les chabots méditerranéens en général, on est en train de monter avec les services de l'État un plan national d'action pour faire le focus sur cette espèce qui est très vulnérable. Elle est d'autant plus vulnérable qu'elle est localisée que sur quelques centaines de mètres sur certaines rivières. Donc autant dire que s'il y a une perturbation, on peut très vite anéantir une population, et elles sont très peu nombreuses. Donc voilà, si on en perd une, c'est forcément significatif.
C'est des espèces pour lesquelles on a des objectifs de conservation. Donc, par exemple, le chabot du Lez, comme il est dans le site Natura 2000, on se doit de mener des actions visant à améliorer son état de conservation. Donc, faire en sorte que les populations se maintiennent en quantité et que les milieux dans lesquels ils évoluent soient des milieux de qualité. Mais ça peut être d'autres espèces, hein. Ça peut être des reptiles, ça peut être des chauves-souris. Voilà, c'est des espèces sur lesquelles on a des objectifs particuliers et des enjeux importants, quoi, on va dire.
Natura 2000, c'est un programme européen de préservation de la faune et de la flore. Donc, le réseau Natura 2000, c'est un ensemble de sites qu'on trouve un peu partout sur le territoire européen. Et ces sites, ils ne sont pas désignés au hasard, ils sont désignés et délimités quand il y a un certain nombre d'espèces ou de milieux naturels qui sont reconnus comme ayant une valeur par l'Europe. En fait, l'Europe a édicté des directives européennes. Donc elle a édicté deux directives. Une qui fait la liste des oiseaux qui, pour elle, nécessitent de créer des sites Natura 2000. Et une deuxième directive sur la liste des autres espèces que les oiseaux et des milieux naturels qui justifient de créer des zones Natura 2000. Donc en fait, on a du coup deux sortes de sites Natura 2000. Des sites pour les oiseaux et des sites pour le reste des espèces et les milieux naturels. Et sur le secteur des gorges de l'Hérault, il y a un certain nombre de colonies de chauves-souris qui sont répertoriées. On ne les connaît probablement pas toutes. Donc il y a toujours un peu de prospection et de recherche un peu d'infos pour trouver où se situent les colonies. Elles ont un système de communication assez original, puisqu'elles ont comme un système de sonar, en fait. Elles émettent des ultrasons. Et donc, quand elles se déplacent, elles émettent des ultrasons dans leur environnement, ce qui leur permet, en fait, par le retour, l'écho qu'elles perçoivent des ultrasons, de localiser un arbre, un obstacle, mais aussi une proie. En fait, c'est grâce à ce système de sonar qu'elles sont capables de détecter les proies en vol et de s'en rapprocher et de les capturer. Donc ça, c'est assez original dans le monde animal. C'est le même système que les baleines, avec les systèmes de sonar et d'ultrason. Ça existe dans le milieu marin également, ouais. Même dans des contextes différents, finalement, elles ont trouvé des espèces différentes, ont trouvé les mêmes outils pour communiquer, pour se repérer, etc. Ça arrive régulièrement. Enfin, quand on étudie un peu l'évolution animale, on se rend compte que dans des contextes différents, il y a des espèces qui trouvent les mêmes solutions, en fait, techniques, entre guillemets.
La continuité écologique, c'est important pour que parce qu'il y a des espèces qui se déplacent et qui ont besoin de se déplacer pour leur cycle biologique. Elles se reproduisent à un endroit qui n'est pas le même que l'endroit où elles vivent d'habitude. Donc voilà, les espèces ont besoin de se déplacer, et que ce soit des espèces de poissons, d'invertébrés, etc. De mammifères également. Donc voilà, c'est une notion qui est importante, puisque quand on a des rupture de continuité écologique, on a des pertes de biodiversité, forcément, et donc des dégradations des écosystèmes. C'est, comme je le disais, c'est vraiment essentiel pour les espèces qui sont vraiment migratrices. Voilà, elles ont vraiment besoin de parcourir de longues distances pour réaliser leur cycle biologique, où là, s'il n'y a plus de continuité, bah, pour elle, c'est l'espèce qui est en régression ou qui peut même disparaître, quoi.
On utilise le terme de continuité écologique. Ça signifie vraiment, il y a plusieurs, sur plusieurs points. La continuité écologique, ça concerne d'abord, bien sûr, les espèces migratrices.
Léonie Rougemont, technicienne aquacole, a étudié l'anguille européenne sur le Lez.
Ça concerne aussi les espèces qui vont simplement faire des petites migrations, mais comme tout poisson, ils vont se déplacer le long des cours d'eau, bien sûr, mais aussi les déplacements de sédiments. Car en effet, une rivière, ça vit. Donc, on va avoir des déplacements de sédiments. Par exemple, la rivière, elle va creuser quand elle va faire un virage, elle va creuser sur une de ses berges. Elle va prendre le sable et puis ensuite, elle va le laisser couler. Et puis, on va retrouver du sable en aval, donc un peu plus bas. Donc, la continuité écologique, ça concerne ces trois aspects. Et donc, le fait que moi, mon étude a été mise en place, c'est quand même un bon signe. Ça veut dire qu'on s'intéresse à cette problématique. Le fait aussi que depuis 2018, la métropole de Montpellier, elle met en place vraiment voilà, les constructions de passes à anguilles, tout ça. Donc, ça prend en compte plus l'aspect de la continuité écologique. Ce n'est pas parce que c'est l'anguille, c'est plus parce que c'est la continuité écologique et que c'est la continuité écologique de l'anguille parce qu'on retrouve cette espèce dans le Lège. Dans le Lez, pardon. Après, il y a des associations migratoires Rhône Méditerranée qui existent, mais ça englobe tous les migrateurs, la losfinte, l'anguille, voilà.
Maintenant, on reconnaît que les animaux communiquent entre eux. On le reconnaît. Mais par contre, couper des arbres, on ne reconnaît pas que les arbres communiquent entre eux. Alors que quand tu vois certaines photos de vent où tu as des forêts très denses et que quand les arbres sont secoués dans tous les sens, tu n'as aucun arbre qui va taper l'autre, il y a quand même un truc là, c'est pas possible. Nous, tu mets 10 humains ou un champ de maïs, tu vois tous les champs de maïs qui vont taper sur les uns et sur les autres. Donc oui, ces animaux, tu les vois, ils sont déjà, ils sont organisés, comme je te disais. Alors, je fais que de la spéculation, et c'est la spéculation d'un profane, d'un technicien, de dire si, en tout point, je te prenais l'exemple du colambol ou du diplour, ils vont se ressembler, sauf qu'ils ne peuvent pas se reproduire d'une colonie à l'autre, c'est qu'il y a déjà une forme de réflexion. Mais finalement, tu sais, c'est un peu comme les rhizomes, comme les champignons, comme tout ça, tu te dis, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une interconnexion qui fait qu'il y a une énergie qui régit des choses spontanées qui, pour nous, nous semblent réfléchies parce qu'on réfléchit peut-être trop, mais qui, finalement, sont normales pour la nature.
Marcher dans la broussaille comme ça, ça me donne un sentiment de liberté. Ce sentiment a une richesse incroyable. Parce que vraiment, on est d'abord loin de tous les médias, loin de tout ce qu'on peut nous raconter, et on est un petit peu livré à soi-même, on est obligé de faire attention à la nature, on redevient un petit peu ce qui fait notre ADN. Donc je suis tout à fait dans mon ADN, et un sentiment de liberté, mais d'une puissance incroyable. Et j'espère que ça va durer longtemps. Autant que... voilà.
Le Garrig, c'est un territoire où il y a la plus grande biodiversité végétale et animale d'Europe. Les Garrigues, hein. Le Garrig, c'est le milieu où il y a la plus grande biodiversité végétale et animale d'Europe, en partant des tout petits animaux et des tout petites plantules jusqu'aux arbres.
Sylvain, habitant de Saint-Jean-de-Buège.
En fait, pour moi, on fait partie de la nature. Voilà, donc il n'y a pas de raison ni d'exclure ni d'inclure, on est dedans. Alors soit on s'entend bien, voilà, puis ça marche bien, et la nature en profite, nous on en profite, soit ça ne marche pas très bien, et soit elle nous exclut, ce qui peut arriver, parce que des fois, vous n'arrivez pas à rentrer dans la nature. Hein. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Saint-Jean, je me suis installé sur la montagne, je me souviens d'une réflexion de quelqu'un qui est toujours là, qui est toujours vivant, et qui est toujours actif, et qui voulait traverser la Serranne en partant de Saint-André pour aller à Péguérolles, en passant par le dessus. Il m'a dit, on ne pouvait pas. Il m'a dit, chaque fois qu'on a essayé, c'était très difficile, à part le petit chemin de crête tracé par les chasseurs pour aller se poster, il n'y avait pas de passage dans la Serranne. Alors que la Serranne est un lieu qui était très occupé. Hein. On y retrouve les anciens postes à sel que mettaient les bergers, les pierres plates qui étaient sur le sol, on les retrouve un petit peu partout. Enfin, on les retrouve. Non, les vaches les ont retrouvées. Moi, Je ne les ai pas retrouvés, ce sont elles qui les ont retrouvés et qui ont dégagé les endroits. Et ce monsieur qui est là, qui habite toujours là, qui est très sympa, il m'a dit non, mais on pouvait pas, on ne pouvait plus passer dans la Serranne. Une fois que la Serranne a été abandonnée pendant 50 ans, c'est fini, elle est fermée. Elle est totalement fermée. Et la biodiversité, ça plonge. Hein. Vous laissez la nature toute seule, la biodiversité, elle plonge.
Deux semaines à peu près, je crois que c'était un mardi. En sortant du collège, il y a plein de gens qui sont arrivés, qui l'ont embarqué. C'était comme le FBI, on aurait dit. Et ils l'ont ramené dans des labos chelous apparemment, et on ne sait pas trop ce qu'ils font.
L'enfant fleuve, bah, tu sais pas du tout, sauf que ça faisait pas de nouvelles dalles.
Non. On l'a juste rencontré il y a 5 mois, et après, on ne sait pas grand-chose sur elle. Apparemment, il l'aurait vu vers 4h du matin se baigner dans le Ticos. Mais c'est...
C'était un épisode de La Rivière en Soi, un podcast de Florent Dupuis, une création de Radio Fenestrou. La suite demain à 13h30 et 20h30.